VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous, Bagassi Kouré et Jean-Roger Bion en direct de Washington. Bienvenue dans cette édition du lundi 9 mai 2016. Au sommaire ce matin,
l'opposant congolais Moïse Katumbi est convoqué ce matin devant la justice sur des soupçons de recrutement de mercenaires en Afrique du Sud et aux États-Unis.
Je ne sais pas si on recrute des mercenaires à Washington, parce que la société que je suis allé consulter pour ma sécurité personnelle à Washington, c'est une société qui existe.
Les forces de sécurité maliennes ont mis la main sur Yacouba Touré, l'un des principaux pourvoyeurs en logistique et armement des groupes djihadistes du sud malien.
Reprise ce lundi du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale à La Haye.
Finalement, des nouvelles encourageantes à propos de l'énorme feu de forêt qui a détruit une grande partie de l'Alberta dans l'ouest canadien.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
L'opposant congolais Moïse Katumbi est convoqué ce lundi matin devant la justice sur des soupçons de recrutement de mercenaires. Lionel Gaïman.
Moïse Katumbi, richissime homme d'affaires de 51 ans et ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga, est convoqué à 10 heures locales devant le parquet général de Lubumbashi, capitale du Katanga, pour y être entendu. Le 24 avril, le gouvernement congolais avait annoncé avoir arrêté 4 gardes du corps de Katumbi, dont un Américain, lors d'une manifestation contre le pouvoir à Lubumbashi. Et mercredi dernier, le ministre congolais de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, avait annoncé l'ouverture d'une enquête sur le recrutement des mercenaires étrangers, dont des Américains liés, selon lui, à Katumbi. Ce dernier avait qualifié mercredi de mensonge grotesque ces allégations et de basses manœuvres du pouvoir pour lui nuire à l'approche des élections. Cette convocation intervient dans un contexte de climat politique très tendu en RDC depuis des mois en raison de l'incertitude liée au très probable report de l'élection présidentielle censée avoir lieu fin novembre.
Retrouvez notre dossier complet sur le sujet dans la partie magazine.
Toujours en RDC, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, est allé réconforter les victimes des attaques armées de la semaine dernière, des attaques attribuées aux rebelles ADF qui ont fait près d'une dizaine de morts. On retrouve sur place Charlie Kasereka.
C'est pour que le commandant soit proche de la population et de la zone de combat, a fait savoir le gouverneur du Nord Kivu lors de sa visite ce dimanche aux familles qui ont perdu les leurs ici à Eringeti. Julien Paluku Kaonga.
Le président de la République lui-même a dit, dès que vous êtes à Eringeti, dites que je suis déterminé à devoir ramener la paix dans cette partie pour que les sourires reviennent sur les lèvres de nos populations d'Eringeti comme toujours et qu'elles vaquent à leurs occupations.
Traumatisés, les quelques habitants restés dans cette petite ville du nord de la ville de Beni, occupée auparavant par environ 25 000 habitants souhaitent le plus vite possible le retour de la paix.
Mais nous ne voulons pas que cela soit seulement leur arrivée et s'installer ici. Nous voulons voir l'offensif contre l'ennemi et nous voulons aussi assister à une paix durable.
Charlie Kasereka, depuis la cité d'Eringeti pour VOA Afrique.
Les forces de sécurité maliennes ont mis la main sur l'un des principaux pourvoyeurs en logistique et armement des groupes djihadistes du sud malien. On fait le point avec Kassim Traoré.
Reconverti en négociant de bétail depuis les attaques de Fakola et Misseni en 2015, Yacouba Traoré faisait la navette entre le Mali et la Côte d'Ivoire tranquillement avec ses animaux. Mais sa tentative de se soustraire de la vigilance des services de renseignement n'est pas allée loin, car ils l'ont arrêté à Bamako-Senou le week-end dernier, où il devrait prendre la route de la Côte d'Ivoire avec des bœufs. Âgé d'une quarantaine d'années et originaire de Konio dans le cercle de Djéné, Yacouba Touré avait rejoint les groupes islamistes dans la région de Kidal en 2010 où il a reçu les formations militaires adéquates en maniement d'armes. Il devint alors un membre de la police islamique et fit la connaissance de Souleymane Keïta, émir d'Ansardine du Sud et Boubacar Savadogo, chef de la branche burkinabé d'Ansardine. Yacouba est l'un des initiateurs de la création de l'unité de combat, c'est-à-dire la Katiba terroriste du Sud au Mali, et y assurait le rôle principal en logistique et armement. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Reprise ce lundi du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale à La Haye, l'ancien président ivoirien et celui qui fut son ministre de la Jeunesse sont poursuivis pour crimes contre l'humanité pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales de 2010-2011. Les deux hommes ont plaidé non coupables à l'ouverture du procès le 28 janvier. Le procès reprend aujourd'hui avec l'audition du cinquième témoin de l'accusation.
Un tribunal nigérien a condamné la principale agence anticorruption du pays à payer 10 millions de naira, soit 50 000 $ de dommages et intérêts pour la détention arbitraire d'un Autrichien consultant dans le domaine de la sécurité et accusé de blanchiment d'argent. Selon un communiqué publié ce dimanche, le juge du tribunal d'Abuja a estimé que Wolfgang Rein avait été détenu illégalement durant plus d'un mois par la Commission de lutte contre les délits économiques et financiers, agence chargée donc de lutter contre la corruption. Selon ce communiqué de PR Nigeria, une agence de conseil en communication pour les services de sécurité nigériens.
En Égypte, 67 personnes ont été déférées hier devant la justice pour l'assassinat en juin 2015 du procureur général au Caire. C'est ce qu'on a appris d'un communiqué du parquet alors que les autorités égyptiennes accusent le Hamas palestinien et les frères musulmans d'implication dans son meurtre. Le 29 juin 2015, une voiture piégée avait explosé au Caire au passage du convoi de Hicham Barakat, le plus haut magistrat du parquet égyptien qui avait succombé à ses blessures à l'hôpital.
La branche égyptienne du groupe État islamique a tué hier 8 policiers égyptiens. Selon l'AFP, le minibus qui les transportait a été criblé de balles. C'est l'une des attaques les plus meurtrières menées par les djihadistes près du Caire.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
On va au Canada. Finalement, des nouvelles encourageantes à propos de l'énorme feu de forêt qui a détruit une grande partie de l'Alberta dans l'ouest du Canada. Chérubin Dorsil nous en dit plus.
La météo a coopéré. Le directeur du service des incendies, Chad Morrison, a déclaré que la baisse de température enregistrée dans la région est idéale pour les pompiers qui ont pu ainsi contenir davantage les foyers d'incendie. Si la menace persiste encore pour les installations des compagnies pétrolières au nord de la ville de Fort McMurray, elle s'est atténuée, a dit M. Morrison. Maintenant, a-t-il ajouté, les 500 pompiers déployés sur place s'attachent surtout à préserver les structures vitales, télécommunications, électricité, gaz, eau, les écoles et les exploitations des sables pétrolifères. L'Alberta a connu ces derniers jours une quarantaine de feux de forêt, forçant le déploiement de 1 400 sapeurs-pompiers. À Fort McMurray, 88 000 habitants au moins ont dû fuir leur maison. En milieu de journée hier, 161 000 hectares dans le nord de la province brûlaient encore et des milliers de personnes avaient cherché refuge dans des abris d'urgence. Cependant, c'est avec une pointe de satisfaction que la première ministre Rachel Notley a annoncé que les feux sont bien moindres par rapport aux précédentes estimations officielles.
Ouverture ce lundi à Bruxelles, en Belgique, du procès d'une cellule djihadiste démantelée en janvier 2015 à Verviers, dans l'est du pays. 4 des 16 prévenus sont actuellement incarcérés, dont Marwan El Bali, âgé de 26 ans. 9 prévenus en fuite ne seront pas présents aux audiences qui se tiendront dans un palais de justice de Bruxelles, placé sous haute sécurité après les attaques revendiquées par le groupe État islamique qui ont fait 32 morts à l'aéroport et dans le métro de la capitale belge le 22 mars.
Les Libanais ont voté dimanche pour les élections municipales. Premier scrutin depuis 6 ans et test pour la société civile qui affronte pour la première fois la classe politique traditionnelle accusée de corruption et d'incompétence. Si les résultats ne sont attendus que tard dans la nuit pour Beyrouth et 2 gouvernorats de la région de Béka dans l'est du pays, l'ex-premier ministre Saad Hariri a revendiqué la victoire de la liste qu'il soutient dans la capitale.
Le parti unique au pouvoir en Corée du Nord a confirmé la stratégie de son leader Kim Jong-un visant à mener de front le développement économique et programmes nucléaires et balistiques selon l'agence officielle KCNA.
Les Philippines votent aujourd'hui pour désigner entre autres le successeur du président Benigno Aquino, le populiste Rodrigo Duterte faisant figure de favori après une campagne outrancière au cours de laquelle il a promis de tuer des milliers de criminels. Plusieurs scrutins locaux et nationaux se tiennent en même temps, point d'orgue d'une séquence politique qui, chaque cette année encore, a été émaillée de violence. 15 personnes ont péri depuis le début de la campagne, selon la police.
Et pour terminer, une sculpture troublante de Maurizio Cattelan, représentant Hitler en train de prier, a été adjugée à plus de 17 millions de dollars aux enchères dimanche soir à New York, chez Christie. Un record mondial pour l'artiste italien de 55 ans. La statue de cire et résine réalisée en 2001, sobrement intitulée « Lui », était estimée de 10 à 15 millions de dollars.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec Nathalie Barge.
Le président nigérian Muhammadu Buhari a finalement approuvé le budget 2016. Il a été révisé légèrement à la baisse à 6 000 milliards de naira et prévoit une augmentation des dépenses publiques de 20%. À noter que dans la version initiale, les mêmes dépenses de véhicules, ordinateurs et meubles apparaissaient à 24 reprises pour un montant de 46,5 milliards de naira, avait dénoncé l'ONG Budgeity. Coris Bank International prépare son introduction à la Bourse régionale des valeurs mobilières à Abidjan cette année, indique l'APA. Considérée comme la deuxième banque du Burkina Faso, elle affiche un bilan de 648,2 milliards de francs CFA. Coris Bank International envisage de s'installer au Bénin et au Sénégal d'ici 2017. La Sierra Leone abrite mardi une conférence internationale sur les énergies renouvelables. Les produits des entreprises et institutions spécialisées seront exposés en marge de l'événement. La nouvelle politique énergétique du gouvernement veut que 85% de l'énergie consommée en Sierra Leone soit renouvelable d'ici 2025.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est l'heure des sports et c'est sur VOA Afrique. On retrouve Élisée Mpatina Boïkon au Bénin. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Bagassi.
Élisée, on commence par du football avec le tour de cadrage aller de la Coupe de la Confédération et le TP Mazembe qui fait un service minimum.
1-0, voilà le score qui l'a permis de prendre le meilleur sur les Tunisiens du stade Gabessien. But marqué à la 94e minute de jeu par Jonathan Bolenghi. De quoi souffler en attendant le match retour. On écoute Hubert Velude, l'entraîneur du TP Mazembe, au micro de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
On n'a pas pris de but, c'est très important. Sur l'ensemble des deux matchs, vous connaissez l'importance des buts à l'extérieur. Ce qui est positif aussi, c'est qu'on n'a jamais rien lâché dans ce match. On y a cru jusqu'au bout. On a fait preuve de beaucoup de force mentale à travers ce match. Et bon, ça peut être très intéressant pour la suite.
Pour les autres résultats, Élisée, le stade malien est condamné à l'exploit au match retour.
Oui, Bagassi, les Bamakois tenus en échec sur leur pelouse par les Marocains du FUS Rabat 0-0. Ils devront donc marquer à Rabat s'ils veulent espérer une qualification. Autre 0-0, celui entre les Algériens du Mouloudia Béjaïa et l'Espérance de Tunis, et tout comme Al Ahly Tripoli face aux Égyptiens de Miss El Makassa. 1-0 également pour les Soudanais d'Almeriek face aux Marocains de Kaoukab Marrakech. Un peu plus d'air par contre pour les Tanzaniens de Young Africans, vainqueurs 2-0 des Angolais de Sagra Esperanza. Même score pour l'Étoile du Sahel face aux Gabonais du CF Mounana et pour les Mamelodi Sundowns qui ont dominé 3-1 les Ghanéens de Mediama. Et puis pour finir avec vous, Bagassi, du basketball, la NBA et les résultats des playoffs.
Oui, dans la conférence Ouest à domicile, Oklahoma City a battu San Antonio 111-97. San Antonio et Oklahoma City sont désormais à égalité, 2 victoires partout. Cleveland a décroché son billet pour la finale de la conférence Est, l'équivalent des demi-finales des playoffs NBA, en balayant Atlanta ce dimanche, 4-0. Les Cavaliers ont remporté le match numéro 4 dans la salle des Hawks 100-99 et réalisent depuis le début des playoffs un impressionnant sans faute. Ils ont dominé Détroit au premier tour sans perdre un match, puis ont répété cet exploit contre Atlanta, soit 8 victoires en autant de matchs. Au prochain tour, les Cavaliers de LeBron James seront opposés soit à Miami, soit à Toronto. Le joueur vedette de Golden State, Stephen Curry, ne devrait pas être disponible ce lundi pour le match numéro 4 des demi-finales de la conférence Ouest de son équipe face à Portland. L'annonce a été faite hier par son entraîneur. Curry, meilleur joueur du championnat NBA 2014-2015 et grand favori pour un second trophée consécutif MVP, s'est blessé au genou droit le 24 avril. Merci Élisée.
Bye-bye.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà, Bagassi Koura de retour avec vous. Place maintenant au dossier du jour. Direction à présent la RDC. L'opposant Moïse Katumbi est attendu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire à 10h heure locale, 8h temps universel, devant la justice à Lubumbashi, pour y être entendu sur l'affaire du recrutement des mercenaires étrangers dont l'accuse le gouvernement. L'ancien gouverneur du Katanga parle d'acharnement sur sa personne. À Kinshasa, des opposants expriment leurs inquiétudes. Ils estiment que cette affaire vise à détourner l'attention sur des élections. Reportage de Dominique Dinanga du Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Accusé d'avoir recruté des mercenaires américains et sud-africains, Moïse Katumbi doit répondre ce lundi à un mandat de comparution émis par le parquet général de la République. Mais l'ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga rejette en bloc les faits lui reprochés.
Moïse Katumbi, sa lutte est pacifique et la démocratie, c'est savoir dire oui ou non. Et j'ai dit non au glissement dans notre pays. Ils ont cité les États-Unis et l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si on recrute des mercenaires à Washington parce que la société que je suis allé consulter pour ma sécurité personnelle à Washington, c'est une société qui existe. Et en Afrique du Sud, je n'ai jamais demandé ma sécurité. Dans un pays sérieux, le directeur de renseignement devrait normalement démissionner. Malheureusement, notre justice n'est pas indépendante, donc j'invite les États-Unis et l'Afrique du Sud qui puissent aussi participer à cette enquête internationale.
L'ancien gouverneur du Katanga bénéficie du soutien de l'ensemble de l'opposition congolaise. L'Alternance pour la République, plateforme politique qui soutient la candidature de Moïse Katumbi à la prochaine présidentielle, parle d'un complot qui n'a pour seul but que d'arrêter Moïse Katumbi. C'est aussi l'avis du G7, un autre regroupement politique qui a choisi Moïse Katumbi comme son candidat à la présidentielle. À la dynamique d'action de l'opposition, on indique qu'il s'agit des manœuvres orchestrées par le pouvoir en place pour désorienter l'attention de la population des élections dont la tenue est incertaine en 2016. Joseph Olingankoy est membre de la dynamique de l'opposition.
L'objectif est de désorienter les gens d'attention vers les élections et la fin du mandat à les désorientant vers les histoires des mercenaires. Les mercenaires, pour faire quoi à 5 mois de fin mandat? Il y a un dossier du ministre Luzolo, dont la lutte contre la corruption. Parmi les gens qu'on a entendu parler ici, on nous a parlé de M. Katumbi. Pourquoi ne pas les poursuivre sur ce dossier-là? Alors, ils ont vu que dans ce dossier, tout le monde est trempé dedans. Maintenant, ça devient l'affaire des mercenaires. Et nous pensons que c'est un complot pour assassiner la démocratie. Nous demandons de libérer les Américains.
Cet avis n'est pas partagé par la majorité qui, elle, recommande une enquête pointue pour établir les responsabilités afin de punir les vrais coupables. Daniel Ngoï Mbayo est communicateur de la majorité présidentielle.
Je crois qu'il faut cesser de supputer et demander à la justice en toute impartialité d'éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale parce que cette affaire peut avoir d'incidence diplomatique.
Par ailleurs, l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo a démenti la présence des mercenaires américains au service de Moïse Katumbi, comme l'a déclaré le ministre congolais de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba. Kinshasa, Dominique Dinanga de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
La question de l'immobilier reste un drame permanent que traverse bon nombre de Béninois qui du jour au lendemain se voient expulsés de leurs appartements pour n'avoir pas eu les moyens de faire face à un loyer devenu excessivement cher. Pire encore, certains, après avoir construit leur maison, se voient expulsés par une décision de justice ayant statué que la parcelle était en litige. Une situation qui remet sur le tapis la question de la loi sur le foncier ou sur le logement au Bénin. Descente dans l'enfer de l'immobilier au Bénin à travers ce reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adande.
Se loger au Bénin n'est pas chose aisée. Avoir un appartement à louer reste une preuve de force. Un projet qui vous ruine si vous n'êtes pas chanceux. Une véritable pagaille régit le secteur et profite plus aux propriétaires de maisons que les locataires qui, pour la plupart, s'endettent pour se loger.
Louer une chambre au Bénin, c'est les avances qu'il faut payer, la caution électricité qu'il faut payer. Donc, c'est souvent très, très, très difficile. Je trouve que c'est très compliqué pour le niveau de vie du Bénin. C'est très, très, très compliqué.
Lorsque vous devez clore le bail, vous n'êtes pas sûr de
occuper votre caution entièrement. Il va falloir faire des va-et-vient. Et même quand le propriétaire trouve un nouveau locataire qui lui paie entièrement la caution demandée, il faut tourner en rond. Ça, c'est un cas que j'ai vécu personnellement.
L'absence d'une loi pour réglementer le secteur rend la situation plus difficile. Les propriétaires de maisons font de la surenchère, augmentent le loyer au gré de leurs humeurs et n'ont aucun scrupule à renvoyer à la rue femmes et enfants.
Voilà un pays où vous n'avez pas de test de loi qui fixe les loyers à payer lorsque vous vous retrouvez dans des appartements de telle dimension. C'est le propriétaire qui t'impose sa loi.
Je ne condamne pas celui qui, par faille de la loi, fait mal. Je condamne la loi qui n'existe pas et je propose qu'on la mette rigoureusement pour qu'il y ait moins de zèle chez les propriétaires et qu'il y ait aussi moins de mauvaise foi chez les locataires parce qu'il y a des locataires aussi qui ont très mauvais caractère. Hein.
Entre le propriétaire et le locataire se trouve un intermédiaire appelé démarcheur qui reste à tout point de vue un géant tous coincé dans la gorge du locataire. Pour la majorité illettrée, ils se servent du besoin pressant des locataires pour se faire de l'argent, souvent avec la complicité des propriétaires.
J'aperçois ça comme une sorte d'arnaque. On n'a pas des agences immobilières vraiment régulières, vraiment sécurisantes, qui peuvent réellement répondre aux attentes du locataire.
Aujourd'hui, pour les Béninois, il est impérieux que le législateur se penche sur la question afin de voter une loi pour siffler la fin de la récréation.
Une chose est de voter une loi, l'autre chose est de faire en sorte que cette loi soit connue de tout le monde et que les sanctions soient réellement appliquées à tout contrevenant de cette loi-là pour que les gens se mettent réellement au pas.
La location d'appartements est même un moindre mal quand on considère le drame qui entoure la vente des parcelles où plusieurs d'entre elles sont déclarées en litige pour le simple fait que certains propriétaires terriens, les yeux plus gros que le ventre, vendent les mêmes parcelles à plusieurs personnes. Vivement le vote d'une loi pour assainir le secteur de l'immobilier au Bénin pour mettre fin à la souffrance de certains propriétaires un jour, sans domicile fixe le jour suivant. De Cotonou, Sinecleur a donné pour VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou, 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
En Afrique de l'Ouest, les affrontements intercommunautaires, notamment entre éleveurs peuls, souvent nomades, et des autochtones agriculteurs, se sont multipliés ces derniers temps. En quelques semaines, ces affrontements meurtriers ont eu lieu au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Mali. Pour une analyse, j'ai joint Ismaël Diallo, porte-parole du Front de résistance citoyenne, un mouvement de la société civile à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Il est connu que depuis la nuit des temps, il y a des rixes et des différends entre éleveurs et agriculteurs sur des questions de terre, de pâturage et d'eau. Mais on aurait pu, chemin faisant, venir à des solutions pérennes dans ce genre de conflit. Nous n'avons pas construit vraiment de nation. Et là, si on l'avait fait, et si on avait amené également par l'éducation les éleveurs à comprendre que la transhumance ne peut plus être comme elle l'était il y a 90 ans, également à faire comprendre aux agriculteurs que la terre se fatigue, et qu'il y a des méthodes de la rendre plus productive sans aller d'un point à un autre, et même de faire que les agriculteurs et les éleveurs soient complémentaires plutôt que concurrents et adversaires, on aurait pu faire cela. Mais je prends le risque de suggérer que les administrations politiques et l'administration tout court n'a pas fait beaucoup d'efforts pour réduire le gap et pour amener ces groupes à se comprendre.
Justement, on a vu le président Alassane Ouattara qui s'est déplacé personnellement dans la région de Bouna. On a vu le Mali qui a envoyé une délégation gouvernementale dans la région où il y a eu des affrontements entre Peul et Bambara. Comment vous trouvez les réponses des officiels? Est-ce que ces réactions des gouvernements apportent des réponses qui vous satisfont?
Ces réactions sont bienvenues et sont bonnes. Malheureusement, et j'ose là également suggérer qu'on attend toujours que le mal se produise pour venir intervenir. Et lorsqu'on intervient et que le calme revient, on ne solutionne pas le problème. On se contente de mettre un sparadrap sur la plaie plutôt que de soigner la plaie. Voici le grand problème que nous avons. Il faut une réflexion à pousser, à impliquer le maximum de protagonistes et venir, après plusieurs mois, après quelques années, à la définition de solutions pérennes pour que ces risques ne se répètent pas.
Vous voulez dire plus de responsabilité à la société civile, notamment aux organisations locales?
Oui, absolument. Il faudrait que les principaux intéressés soit propriétaire de la réflexion et des décisions qui sont prises pour solutionner le problème et qu'il soit accompagné par les autorités régionales et centrales.
Voilà, c'était donc Ismaël Diallo, porte-parole du Front des résistances citoyennes. Il a été joint à Ouagadougou, au Burkina Faso.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique en direct de Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
La capitale sénégalaise accueille depuis le 3 mai la 12e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. L'innovation cette année, c'est le MADAC, le marché de l'art africain de Dakar, une façon pour les organisateurs de revaloriser les artistes du continent et leurs œuvres. Sokhna Natambay y a fait un tour.
Dans le hall du Grand Théâtre National de Dakar, tableaux, statuettes et autres œuvres d'art trônent par-ci et par-là. Des couleurs et des formes qui témoignent de l'évolution de l'art africain. Khalidou Kassé, artiste plasticien, peintre et sculpteur.
Quand on voit aujourd'hui des sculptures que nous avons présentées ici qui datent de 3000 ans, 500 ans avant Jésus-Christ, ce n'est pas des blagues, c'est du sérieux. Nous avons ici des œuvres qui coûtent 50 millions, qui coûtent 75 millions.
Pour cette 12e édition de la Biennale de l'art africain, l'artiste, en collaboration avec d'autres hommes de culture, a pris une initiative.
Le marché de l'art africain de Dakar, intitulé le MADAC, en est à sa première édition et pratiquement on peut dire que c'est l'innovation de la Biennale. Parce que depuis 12 ans, on fait la même chose. C'est des tableaux qui sont présentés, c'est des sculptures, c'est des rencontres scientifiques, mais après, mais 12 ans, je pense quand même qu'il fallait créer autre chose.
Les artistes pourront ainsi exposer leurs œuvres et attirer les férus d'art. La créativité africaine a toujours inspiré le monde extérieur et cela doit être encore plus profitable aux artistes africains. Sanou Diawara, artiste peintre.
Moi-même, j'ai amené aussi un tableau. Et chaque artiste aussi a amené aussi un tableau, suivant des thématiques, mais qui ont trait un peu au concept qu'on a fait.
C'est-à-dire?
Le concept, c'est un peu, par exemple, l'art moderne et l'art antique. Essayer de voir un peu, par exemple, le trait d'union entre ces arts. Parce qu'on a vu, par exemple, qu'il y a beaucoup d'Européens, beaucoup d'artistes de renommée mondiale. La base de leur renommée, c'était pratiquement l'art africain.
Ce jeune homme prend une photo devant des carrés en verre, égayés par différentes couleurs. Comme on parle du marché de l'art africain, le prix figure forcément à côté. Le jeune, curieux, apprécie la beauté du travail, mais sans plus.
1 500 000 comme ça. Hein? En tout cas, c'est joli. Mais d'habitude, les Sénégalais n'ont pas cette culture. L'art-là, ça intéresse plus que les étrangers, que les Sénégalais. Maintenant, il y a un changement, parce que petit à petit, les gens commencent à s'imprégner de l'art, les acheter, de les mettre dans leur salon ou bien dans leur chambre.
Les activités du Dakar vont se poursuivre jusqu'au 2 juin dans certains endroits de la capitale. Expositions, projections de films, panels, entre autres. Un grand événement pour le monde de l'art africain. Sokhna Natambay, Dakar, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Voilà, merci de votre fidélité. C'est la fin de cette édition présentée par moi-même, Baga Sekoura et Jean-Roger Bion. Production était assurée par Lionel Gaïma. Ainsi va le monde aujourd'hui. Très bonne journée à tous. On maintient la conversation sur notre page Facebook VOA Afrique. Merci de nous suivre et aussi sur notre site internet. L'actualité est en continu 24h sur 24. C'est voafrique.com.